Ok, voilà. Mes amis, il est 20h13, donc ça veut dire qu'on ne fera pas la totalité de ce qu'on avait envisagé de faire, mais on va déjà essayer de terminer la péricope précédente, c'est-à-dire les versets au chapitre 11, les versets 27 à 30, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Essayer de voir ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes, déjà. Donc, si quelqu'un a envie de faire cette courte lecture, ça m'arrange bien.
Je prends. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, inspiré par l'Esprit Saint, annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères et aux sœurs qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de la Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul.
Ok. Très bien. Alors, je n'ai pas le questionnaire sous les yeux, mais c'est celui de la fois passée. C'était plus ou moins les questions 8
Ouais,
donc la première, c'était, d'après vous, pourquoi les prophètes viennent de Jérusalem et que désigne ce terme ?
Bah, prophète, c'est porte-parole de Dieu, déjà.
Je n'ai pas compris, Josiane.
Prophète, porte-parole de Dieu. Et il y en a que c'était leur métier.
Oui.
C'est un peu bizarre. Enfin, bah, ça nous semble bizarre.
Déjà dans l'Ancien Testament, et la plupart de nos prophètes, grands ou petits, faisaient partie de cercles de prophètes, des écoles de prophètes, en fait. Et donc, ils étaient en charge d'une parole... Et intermittente d'ailleurs, hein, parce que parfois il parlait, puis après il parlait plus. Voilà, donc ça dépendait un peu de ce que Dieu avait envie de dire ou de faire. Donc ça, c'était le prophétisme. Maintenant, on est peut-être un petit peu dans le Nouveau Testament, dans quelque chose de légèrement différent du système de l'Ancien Testament, mais ça, c'est pas grave.
De toute façon, il parlait sous l'inspiration donc, du Saint-Esprit.
D'après vous, quelle est la raison pour laquelle ces prophètes descendent de Jérusalem ? En rappelant au passage que Jérusalem-Antioche, c'est quand même 700 kilomètres et plus, hein, quelques poussières de plus, 780, je crois. Donc voilà, il fallait quand même le vouloir. Donc qu'est-ce que ça indique ?
Est-ce qu'on n'avait pas dit avec Antioche qui était comme la deuxième église
Donc Antioche est là.
Avec des païens.
Exactement. Donc, à la différence de la première église qui est celle de Jérusalem, Antioche est une seconde église, sœur, entre guillemets, composée, allez, on va dire pour donner une échelle, 80% d'incirconcis et 20% de circoncis, quoi, en gros. Donc, une très grosse église avec des origines, l'origine des gens étant païenne, ou grecque, on va dire ça comme ça. Mais donc, moi, je me suis quand même interrogé pourquoi des prophètes vont de Jérusalem à Antioche.
Parce que cette question
Barnabas est déjà là. Et Barnabas a bel et bien été envoyé, mandaté par Jérusalem, par l'église de Jérusalem. Donc là, on assiste à un deuxième, comme on a eu l'implantation, si vous voulez, d'Antioche par des anonymes, venant d'ailleurs de Chypre ou de Phénicie, et n'ayant rien à voir avec Jérusalem, on a des prophètes cette fois-ci qui viennent de Jérusalem, mais qui ne sont pas plus mandatés que les premiers. Donc c'est de leur propre chef, entre guillemets, qu'ils descendent de Jérusalem à Antioche. Sans doute parce que les échos que Jérusalem a de ce qui se passe à Antioche les motivent à y aller. D'accord. Ceci dit, ils ne seront donc pas des enseignants au sens strict du terme, pas comme Barnabas, pas comme Saul, mais bel et bien des gens qui viennent pour... Alors, je ne sais pas si c'est dans le texte tel quel, mais on pourrait dire, quand on voit un peu Agabus, le rôle d'Agabus, c'est quand même de prévenir, d'annoncer, un événement grave, etc. Et on peut imaginer que, comme tous les prophètes, ceux de l'Ancien Testament compris, il y a une part d'encouragement, d'exhortation, qui fait partie de ce travail-là. On voit d'ailleurs que ces prophètes n'y sont pas restés, puisqu'on retrouve Agabus beaucoup plus tard, dans d'autres circonstances, ailleurs. Mais je ne vais pas dévoiler tout nécessairement.
Mais ce seraient des prophètes chrétiens ou juifs ?
Alors, en tout cas, messianiques. Pas des judaïsants qui ne veulent pas entendre parler du Messie. Donc, issus de la communauté de Jérusalem, on va dire ça comme ça. Donc, jusqu'à cette époque-là, on avait les personnages de Barnabas et Saul qui vivent à Antioche, qui enseignent, qui évangélisent par la même occasion. Et puis, il y a ces fameux prophètes. Et on suppose qu'il y en avait pas mal au sein de l'Église de Jérusalem, parce qu'on retrouve ces mentions au 15e chapitre, par exemple, ou au 21e chapitre des Actes. On le cite l'activité des prophètes dans cette église. Quel était donc le rôle de ces personnages inspirés par l'Esprit Saint ? C'est ce qu'on nous dit dans le texte, en tout cas. Ils annoncent des événements, notamment Agabus, ici, dans notre passage. Ils encouragent, ils exhortent, ils soutiennent la communauté dans son développement. Alors, rappelez-vous ce qu'on s'est dit la fois passée, Antioche se développe au jour le jour, mais d'une manière exponentielle et puissante. Donc il n'y a plus assez de bergers, entre guillemets, pour transmettre, et c'est le rôle d'ailleurs de Barnabas et Saul, transmettre à des païens l'essentiel de ce qu'ils doivent savoir ou connaître de l'Écriture, c'est-à-dire l'Écriture juive, l'Écriture de l'Ancien Testament. Et donc ce n'est pas simple, il faut arriver à suivre tous ces nouveaux convertis, et donc les prophètes viennent sans doute en renfort à nos amis Barnabas et Saul dans une partie de ce ministère. Alors on peut se demander quand même si la mention par Luc de ces prophètes, de cet épisode, ne revient pas à prouver ce qui a été dit plus tôt dans les Actes, c'est-à-dire la fameuse prophétie de Joël, Joël chapitre 2, verset 18, où il est question des prophètes qui sont un des signes messianiques, en tout cas, mais aussi du prophétisme pour tout un commun, puisqu'on dit que les vieux, les jeunes, les femmes, beaucoup de gens vont prophétiser, signe messianique aussi par excellence. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être un clin d'œil de Luc aussi derrière cette mention, de dire voilà que les prophéties se réalisent vraiment. Ce que Joël a annoncé se déroule non pas à Jérusalem sous nos yeux, mais à Antioche, dans un milieu issu du paganisme. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et puis on retrouve alors ce prophétisme dans son développement, en tout cas un prophétisme chrétien à Antioche, à partir du chapitre 13, donc ça on verra, tout comme on en trouve à Éphèse, chapitre 19, ou à Césarée, chapitre 21. Donc on voit que le prophétisme, si vous voulez, un peu comme la période camisarde en France, au moment des guerres de religion, on a eu pas mal de mouvements prophétiques pendant cette période d'épreuve. Et donc là, on voit que le prophétisme chrétien, je dis chrétien exprès pour bien faire la différence avec Jérusalem, il va s'activer partout. Partout où des églises sont fondées, notamment dans les territoires païens, le même prophétisme que celui de Jérusalem va exister. Donc voilà, je pense que c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles Luc nous fait part de ce groupe de prophètes qui descendent de Jérusalem à Antioche. Et je voudrais quand même faire une petite remarque, parce que très souvent, vous le savez, on dit qu'aujourd'hui le prophétisme n'existe plus, sauf dans certains milieux un peu à part, de type charismatique, pentecôtiste, etc. Moi, je n'en crois rien, parce que je pense justement qu'on confond, où on ne prend qu'une des facettes du prophétisme, qui est la voyance, mm-hmm. le fait de voir à l'avance des événements, en oubliant tout le côté exhortatif et consolatoire. Or, le prophétisme, c'est aussi ces hommes, ces femmes qui sont capables d'encourager l'Église à demeurer ferme, à avancer, à continuer d'attacher sa foi au Seigneur Jésus, etc. Bon, je pense qu'on en a bien besoin. Et donc, je soutiendrai qu'il existe toujours des vocations prophétiques dans l'Église contemporaine. Peut-être pas au sens strict des courants charismatiques qui, eux, parfois, en font un peu trop, essayent de nous prouver que le prophétisme existe. Mais moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui exhortent et qui consolent, qui encouragent, mais aussi qui annoncent les épreuves à venir. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu clair très tôt. Je pense, par exemple, à une période, celle que nos parents ont connue, du nazisme, ou quand même dans l'Église confessante en Allemagne, par exemple, plusieurs hommes, parce que les hommes à l'époque étaient pasteurs, plusieurs hommes ont annoncé à l'Église ce qui allait arriver, c'est-à-dire où on allait aboutir finalement, raison pour laquelle une grande partie de l'Église luthérienne est devenue clandestine. Je ne sais pas si vous le savez, ça, mais enfin, un certain nombre de pasteurs ont refusé d'être enrôlés dans l'Église officielle et ont créé des paroisses clandestines, dans le sens que c'était dans les maisons et il ne fallait surtout pas dire que ça existait, dont Bonhoeffer, le grand théologien, a fait partie. Il a fait partie de ce milieu confessant-là, tout en étant un grand théologien. Et maintenant, pour revenir à la francophonie peut-être un peu plus contemporaine, on peut aussi dire que certains hommes, et je pense à Jean Brun, que peut-être vous ne connaissez pas, qui était un philosophe français, que j'ai eu comme prof d'ailleurs de philo à l'université, Jean Brun a annoncé avec Ellul, Jacques Ellul pour ceux qui connaissent, ce qui allait se dérouler dans la modernité, c'est-à-dire la place de la technologie, la place de la technicité dans une sorte de déshumanisation du tissu social. Et je pense qu'on y est en plein maintenant, on voit bien ce que ça donne. Mais eux ont dit ça dans les années 30. Ils ont commencé à dire ça dans les années 30, alors qu'il n'y avait pas l'ombre d'un problème. D'accord ? Donc il y a quand même des gens qui, par leur ancrage dans la foi, alors côté catholique certainement aussi, par leur ancrage dans la foi, arrivent à percevoir les dangers de la dérive. Alors laquelle ? La dérive du mal, hein ? Parce que le mal, lui, ne s'arrête pas, hein ? Continue son petit bonhomme de chemin. Donc nécessairement, à un moment donné, ces hommes et ces femmes arrivent à dire « Les amis, on va droit dans le mur et il faut peut-être que l'Église s'y prépare. » Donc ça, je pense que c'est important de le dire, que donc on a encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui nous aident à nous préparer et puis à consolider notre foi par rapport à la propagation du mal. Fermons la grande parenthèse donc sur la contemporanéité pour revenir à notre texte. Donc après, il y avait quoi comme question ? Ah oui, quelle est la prédiction d'Agabus ?
La grande famine.
Et s'est-elle réalisée ?
Oui, apparemment, oui.
Drôle de nom pour un prophète. Oui. Ça fait un peu Merlin l'Enchanteur.
Oui, oui, oui.
Donc, on peut dire en tout cas que c'est un nom à consonance romaine, ou romanisé. Peut-être c'est parti d'un nom juif, puis qu'il a romanisé parce qu'il était peut-être devenu citoyen romain, peu importe, mais sinon c'est assez intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question ? Sa prédication, enfin, sa prédiction consiste à dire
Une famine arrive.
Oui, je vais poser une question. Parce qu'il annonce une famine sur toute la terre.
Oui.
Or, il semblerait que c'est surtout en Judée. Je regardais un petit peu d'après... Joseph,
c'est dans plusieurs... Enfin, quand on dit, quand Luc, en particulier l'historien, dit toute la terre, il s'agit de l'Empire romain.
De l'Empire romain.
C'est-à-dire ce qui est connu pour eux. Ils font partie de l'Empire, même s'ils n'en avaient pas vraiment envie. Et donc, dans ce monde-là, va survenir une famine. Après, on peut se demander, est-ce que Luc raconte des bobards ?
Donc ceux qui ont donné, au fond, n'ont pas pensé aux besoins qu'ils pouvaient avoir. Finalement, ils ont donné
eux-mêmes pour avoir, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Oui, mais apparemment,
avoir, si c'est.
Alors, il faut bien percevoir les choses. Qui fait des dons ?
L'église d'Antioche, non ?
Des chrétiens, des nouveaux chrétiens de l'église d'Antioche, donc des païens, des gens d'origine païenne, vont financer une partie des églises de la Judée. Alors, selon les commentaires, certains insistent pour dire que c'était Jérusalem, mais manifestement, ce n'est pas ce que le texte grec dit. Le texte grec dit bien la Judée, au sens large du terme. Or, on venait de voir, quelques chapitres précédents, qu'effectivement, Pierre fait une tournée en Judée, fait la tournée d'églises, même si c'est des petits groupuscules, des églises disséminées en Judée. Donc, manifestement, en réponse à ta question, on a une famine qui touche en tout cas la Judée. D'accord ? Et ce sont ces chrétiens d'origine païenne qui vont subvenir aux besoins des juifs, juifs messianiques entre autres. Et alors, Luc nous précise quoi ? Qu'elle a lieu quand cette...
Sous le règne de Claude.
Alors, c'est pas rien qu'ils le disent. Parce qu'alors, il y a moyen de rechercher si c'est arrivé ou pas.
Comment dater ?
Et ce qui est arrivé, d'après Luc, est bel et bien, ce qui a été annoncé est bel et bien arrivé, d'accord ? Jusque-là, conformément à la révélation donnée par Agabus. Or, on sait que Claude a été empereur entre 41 et 54. Alors, les historiens se battent, vous savez qu'il y a toujours deux années d'écart entre les dates que l'un et l'autre donnent, mais enfin, on s'en fiche. Mais de fait, on sait aussi, indépendamment de Luc, qu'une famine chronique, qui s'est donc répétée sur plusieurs années, a frappé l'Empire en divers endroits, entre en tout cas 46 à 48. Donc au moins deux bonnes années à crever la dalle. D'accord ? Alors, on le sait par des gens comme Suétone, on le sait par Tacite, et on le sait par le fameux Joseph, n'est-ce pas ? L'historien juif qui raconte aux Romains l'histoire de son territoire. Et ce dernier, justement, il déclare dans les Antiquités, il déclare que de nombreux habitants de Jérusalem moururent de faim. Donc, lui, l'historien, nous amène un détail que nous n'avons pas ici, dans les Actes des Apôtres. Et Eusèbe, qui, lui, intervient un peu plus tard, il dit que cette famine a eu lieu la quatrième année du règne de Claude. Donc, il va au-delà des chiffres précédents, c'est-à-dire, en tout cas, l'année 44, ou peut-être qu'elle a même duré de 44 à 48, vous voyez, selon les sources d'informations, on peut recouper. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que Luc raconte n'est pas un bobard, que c'est bel et bien étayé par d'autres auteurs qui, eux, n'ont rien à gagner à contribuer à la véracité de l'Évangile, hein, ou des Actes des Apôtres. Donc, bon, on peut se dire ouf pour nous. Un point d'avance. OK. Et que se passe-t-il alors ? Après cette annonce d'Agabus, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Après moi le déluge, justement, engrangeons-nous pour ne pas être dans le bazar. Et puis là, étonnamment...
Il décide tout de suite de donner quelque chose pour aider...
Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est
une fois que la famine arrive ? Ils décidèrent alors que chacun d'eux donnerait.
Mais alors, une fois que la famine est arrivée, donc, et du coup, ils auraient donné le surplus en...
Nous nous rappelons une chose. Antioche, une extrêmement grande ville, richissime. Richissime par son commerce entre l'Asie et l'Empire, en fait. Plus un port, c'est un grand port maritime. Donc on peut se dire que même si la famine a touché cette région, eux avaient les moyens de s'en sortir. Puis ils stockaient des céréales, ils vendaient. Donc voilà, je suppose qu'eux savaient pourquoi. Mais tu n'as pas tort de dire que ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'on fait tout de suite. D'ailleurs, on risque de s'en apercevoir en étudiant le 12e chapitre, c'est-à-dire... Est-ce que Barnabas et Paul, dont on parle à la fin, Saul et Barnabas, est-ce qu'ils sont partis directement à Jérusalem ? Apparemment, non. Donc, entre le moment où l'idée est là, le projet, et sa réalisation concrète, c'est-à-dire les fonds sont réunis et l'argent est transmis par Saul et Barnabas, va se passer un certain temps. Donc, peut-être que tu n'as pas tort, même si ce n'est pas dans le texte, de dire qu'ils ont attendu les faits. Eux, ils ont l'argent. Alors, chacun contribue, comme dit le texte, en fonction de ses ressources. Je suis très très riche, je contribue beaucoup. Je suis moins riche, je contribue un peu moins, mais je contribue. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qui a pris cette décision dans le texte.
Disciples.
Alors, c'est très intéressant de voir que ce n'est ni Barnabas qui pilote le bazar, ni les fameux prophètes qui viennent de dire « Aïe, 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 via Gabus, ça va barder les gars. » Et donc, les croyants de base, dans un élan de générosité et de foi, se disent « Eh bien, on peut faire ça. On va pouvoir cotiser et financer l'achat de céréales, sans doute pour d'autres en Judée, qu'eux puissent s'en sortir. » Et donc, je trouve ça personnellement admirable, quelque part. Déjà, le processus lui-même, hein, le processus de décision, ne pas attendre que les leaders prennent la décision et nous obligent à. Donc ce sont les convertis de base qui décident. Ça démontre une certaine foi, en tout cas une foi active, sincère et exemplaire, hein, de la part d'une église, je le rappelle, dont la majorité des frères est issue du paganisme. Les évangélistes juifs, puis Barnabas et Saul, ont finalement bien travaillé. Donc ils ont quand même réussi dans leur enseignement à faire passer tout ce que le judaïsme prônait déjà à la base. C'est-à-dire, on ne laisse pas de côté quelqu'un qui est appauvri, on s'occupe de l'orphelin, de la veuve, etc., etc. Tout ça semble déjà ancré dans la dynamique de cette jeune église en terre païenne. Et puis on peut aussi ajouter qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut les réaliser. Hein, parce que parfois dans l'Église, on a de très 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 beaux projets ou de très très belles discussions, mais pas grand-chose à l'arrivée. Alors, on peut dire, dont acte ici, puisque finalement on sait que cette collecte va avoir lieu et on sait qui va l'amener à Jérusalem. Et à qui est envoyé cet argent? Alors, ce n'était pas une de mes questions, hein, je ne pense pas.
Aux frères et sœurs qui vivent à Jérusalem. À Judée, pardon. En Judée, moi.
Est-ce qu'on peut penser que tout a été donné à Jérusalem et que Jérusalem a dispatché?
Ça, c'est possible. C'est effectivement possible. En tout cas, l'envoi, si vous voulez, donc Saul et Barnabas vont être missionnés pour restituer cette collecte aux anciens, et donc en grec c'est presbytéros dans le grec, aux anciens, c'est-à-dire non pas aux apôtres, comme c'était le cas au tout début de l'Église, où les apôtres avaient quand même tous les rôles, on veut dire, puis c'est normal, puisque l'Église était en train de naître, mais on s'aperçoit que l'Église s'est installée. C'est-à-dire il y a maintenant une sorte de délégation dans le système, ce ne sont plus les apôtres qui font tout, mais ils ont délégué à un certain nombre d'anciens, mis en place sans doute par les apôtres, hein, pourquoi pas, et on s'aperçoit donc que le groupe des messianiques imite ce qui se fait dans toutes les communautés juives de l'époque. On nomme des anciens, quelques personnes, pour gérer, administrer la vie des groupes locaux. Et on peut s'imaginer que ces groupes d'anciens existent dans toute la Judée, chaque fois qu'il y a une petite communauté, et même en Samarie, puisqu'on a vu qu'en Samarie, il y avait aussi...
Est-ce que les anciens, ce sont les diacres?
Non, autre chose. Ça peut être les deux. Là, parce que voilà, on voit bien dans les écrits du Nouveau Testament, par exemple, on voit des diacres qui sont anciens, et on voit aussi des anciens qui sont évêques, qui sont... Donc, qui ont un rôle particulier en plus de leur charge d'ancien. Donc, on s'aperçoit que ces anciens-là ont des charges qui sont à la fois spirituelles et administratives, si on peut dire ça comme ça. Alors, une fois que la contribution sera complétée, contribution généreuse, réunie, elle sera confiée, donc, comme on l'a vu dans le texte, à Barnabas et Saul. Et moi, je trouve très intéressant l'idée que Antioche a reçu un soutien spirituel de Jérusalem, avec des gens comme Barnabas et Saul, par exemple, et les prophètes, verset 22, donc. Et maintenant, c'est l'église d'Antioche qui vient à son tour en aide à Jérusalem, mais sur un plan plutôt financier, matériel, ouais. Et pas qu'à Jérusalem, puisqu'en fait, ça va toucher plusieurs communautés en Judée, sinon toutes. Ça, on n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'ils se sont permis d'être généreux. Hein. Et vous remarquerez une chose, alors, c'est que cette histoire de collecte issue de la base, elle va générer toutes les collectes qui vont suivre. C'est-à-dire, quelque part, l'exemple a été donné que les églises païennes peuvent aider la Judée, peuvent aider les Juifs. Et Paul ne va pas se priver de refaire ça chaque fois que ce soit nécessaire pour Jérusalem. Donc il y a quand même là une espèce de... Personnellement, je trouve ça fabuleux d'imaginer que les Juifs messianiques acceptent l'argent des païens, l'argent des églises issues du paganisme. On aurait pu imaginer que c'est des réticences. Mais quelque part, c'est clair que cet argent tombait à pic pour sauver, entre guillemets, alors physiquement, sauver des gens, des hommes, des femmes, des enfants, et que donc les Juifs sont plutôt reconnaissants de cet élan de générosité issu des églises en territoire païen. Et on le verra tout au long des épîtres de Paul, d'ailleurs.
Avec, voilà. Avec la Dieu du Seigneur.
Oui, là, effectivement, je ne sais pas comment l'Église s'en serait sortie à Jérusalem et en Judée s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce, quoi. Sans compter que, voilà, ces fameux territoires Antioche et d'autres, hein, parce que si on parlait des épîtres de Paul, on pourrait rajouter d'autres villes, ces grandes villes où ces tournées d'offrandes que Paul a faites, c'était généralement des villes extrêmement riches dans ces territoires païens. Des villes d'art, des villes de philosophie, des villes commerciales, etc. Des villes sous statut romain. Il y avait des villes entières comme celle de Tarse, par exemple. La ville de Paul, c'est une ville officiellement romaine. Donc elle a un statut particulier. Quoi.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas Paul, ici, Saul ?
Oui, il ne s'appellera pas Paul pendant un bon bout de temps. Hein.
Ah, oui.
Il va garder son...
Saul,
Et d'ailleurs, je serais curieux... de trouver la raison pour laquelle... Alors peut-être qu'il avait les deux. Peut-être qu'au niveau romain, il se faisait appeler Paul, et qu'au niveau juif, il se faisait appeler Saul, qui est son nom, évidemment, d'origine judaïque. Voilà. Mais tout d'un coup, il apparaît dans un chapitre futur. Tout d'un coup, on ne l'appellera plus jamais Saul. Il va tout le temps s'appeler Paul. Voilà. Ok, alors peut-être quelques applications. Je ne sais pas où on en est dans le timing. Ouais, donc je crois que le chapitre 12, on aura du mal.
Moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans tout ce passage qu'on a étudié ensemble, c'est l'importance d'enseigner et d'affermir un nouveau converti. Et quand j'y réfléchis, je me dis que ça a été comme ça pour moi aussi, et je le vois encore à l'heure actuelle, autant d'années après. Quelqu'un se convertit, on se réjouit et on pense que tout va suivre, que tout va aller, que tout se roule sur des roulettes et que la personne va suivre dans l'église, qu'elle va apprendre. Et c'est vrai, on apprend par les messages, on apprend par les publics, on apprend par les cultes, par les contacts avec les frères et les sœurs. Mais est-ce qu'on prend vraiment à part le nouveau chrétien et de lui inculquer ce qu'il a besoin de savoir ? Suivant son origine, sa culture, ses connaissances. Et je me dis qu'on a peut-être à apprendre.
En tout cas, pour l'Église moderne, quelle qu'elle soit, je crois que c'est important de bien comprendre que les gens qui entrent aujourd'hui dans l'Église par conversion, quelle qu'en soit la manière, ils entrent avec le bagage post-chrétien. Pas du tout avec le bagage que nous avons eu, nous, en étant gosses ou jeunes, dans l'Église. Nés dans l'Église, quasiment. Enfin, pour certains. Plus que d'autres. Comme Obélix dans sa passion. Donc, moi, je me dis, on n'a pas conscience à quel point ce que l'Évangile raconte est inaudible dans la sphère sociale dans laquelle on est.
Moi, je suis...
Et donc, comment éduquer ? Comment faire en sorte de rattraper l'immense fossé qui existe entre le discours social d'aujourd'hui, culturel et social, et la réalité de l'Évangile. Pour pour moi, ce n'est pas simple. Alors nous, on a déjà un problème avec l'Ancien Testament. T'imagines, eux, ils ont deux trucs à rattraper, le nouveau, l'ancien, essayer de plonger dans leurs racines, ça ne me paraît pas évident. Et moi, je me pose la même question que toi.
On a connu à Glin, le pasteur Jean-Paul Willems, dès que quelqu'un se convertissait au culte, il trouvait quelqu'un pour lui dire « maintenant tu vas passer du temps avec lui » et en quelque sorte pour lui enseigner les bases, le B.A.B. Bah
oui.
On ne sait pas toujours d'où viennent les personnes et ce qu'ils ont compris.
Exact.
Et ça, j'ai trouvé tellement bien. Et on ne pratique pas ça. On pense que ça va suivre.
Et
en quelque sorte, ça suit. Mais peut-être qu'il y a un retard.
Ça suit ou ça casse.
Oui, d'autant que le public d'aujourd'hui, si tu veux, celui qui se convertit, a aussi ce désavantage, j'ai envie de dire ça comme ça, d'être très critique. Donc dès que quelque chose ne sonne pas comme ça devrait à ses oreilles, c'est tout de suite la fermeture. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'analyse critique. On réagit avec ses tripes pour tout et pour rien. Et donc, voilà, on dit, ça non. Tu vois ? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que je reste convaincu que l'Église a un grand chantier entamé, qui est la catéchèse des adultes, notamment, catéchèse des gens qui rentrent dans l'Église, peut-être avec un bagage précédent d'il y a très très longtemps, peut-être avec rien du tout pour la plupart, et comment les aider à grandir, et puis à... Pour moi, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'ancrage dans la réalité de la bonne nouvelle. Comment peuvent-ils découvrir Jésus tel qu'il est ? Et puis, bazarder le côté culturel, ou les vieilles réminiscences du passé, etc. Je crois qu'il y a un sacré chantier entamé, quoi. Et là, malheureusement, je ne vois pas dans l'Église aujourd'hui un courant se dégager là-dessus. Pas même dans des milieux très piétistes. Alors, on laisse le soin aux gens de s'auto-former. Alors, c'est vrai qu'il y a des livres, c'est vrai qu'il y a des sites internet, etc. Mais donc l'Église elle-même ne se donne pas les moyens, ni d'ailleurs les moyens de vérifier la connaissance des gens. Moi, je peux te garantir, je vais dire un truc que Lynn connaît, je peux te garantir que j'ai fait des quiz quand j'étais à Wav pasteur, où des gens qui étaient là depuis très longtemps échouaient. Alors, on le faisait sous forme ludique, pas pour se vanter, mais c'était catastrophique. C'est-à-dire, très souvent, il y avait un mélange de connaissances anciens, Nouveau Testament. Moïse pouvait se retrouver dans le Nouveau, puis, bon, des trucs invraisemblables, quoi, tu vois, qui montrent quoi ? Une absence de culture, une absence de lecture de la Bible. Parce que je pense qu'en lisant la Bible, on finit par l'ancrer, justement. Donc, on n'a pas seulement un problème de catéchèse, on a aussi un problème...
Le suivi, peut-être aussi.
Mais un peu. Ben oui, c'est ça qu'il faut essayer de trouver à mettre en place. Mais surtout, comment donner envie aux gens de lire eux-mêmes le texte biblique. Parce que la première chose que tu entends, voilà, la première chose que tu entends dit, j'y comprends rien.
Quand j'ai commencé à lire la Bible, je n'y comprenais rien du tout. Je t'assure. En plus, j'avais été acheter une Bible. Celle de Crampon, je crois.
Ah, Crampon. Hein, c'est pas une mauvaise Bible.
Rien du tout. Je n'ai pas lu beaucoup, parce que je ne comprenais rien du tout. Et, mais ça m'a donné envie de suivre des études bibliques que je n'ai pas trouvées dans l'Église catholique à mon époque. Hein, je ne sais pas maintenant.
Maintenant, il y en a.
Il y en a. Mais j'en ai une du côté protestant. Et donc, ça m'a... Voilà, j'avais une soif de compréhension de ce que je disais. Parce que tu peux toujours comprendre quelque chose, peut-être pas dans l'Ancien Testament.
Mais
pas toujours dans tout. Mais dans le Nouveau Testament, c'est quand même pas des mots incompréhensibles pour nous. Par contre, la signification profonde avec tout ce qui est l'époque qu'on ne connaît pas. Irène, par exemple, moi, ça m'a frappé quand j'ai entendu dire, par exemple, la parabole du semeur. Ben, on n'est pas des agriculteurs. On est, qu'est-ce que c'est pour nous 30 pour us, 50 pour us, 100 pour us. Ça ne nous dit rien du tout, nous. Mais si on ne te l'explique pas, ben ça passe, tu le lis, puis oui, tu le retiens, parce que les mots sont... Ça frappe, mais ça ne signifie rien.
Quand on est jeune à l'école, on a des cours de biologie, comment on pousse le blé et tout ça.
Les cours de maths aussi.
Les cours de maths.
Ne rappelle pas de souffrance.
Non, mais je veux dire...
On ne parlait pas d'agriculture, c'est moi, quand j'ai fait mes études.
Non, agriculture, mais quelqu'un qui sème.
Oui, mais le rapport... Tu n'as pas de notion de ça. Tu ne penses pas que ça peut aller sur le chemin ou sur les ronces et tout ça. Tu t'imagines le champ de blé. Et puis
oui,
c'est
mais
tout.
Non, je dois
c'est
dire que j'étais dans une école chrétienne et tous les jours on avait une histoire de la Bible.
C'est pas pour ça qu'on te l'expliquait.
On a beaucoup de ronces aussi.
Moi, je ne me rappelle même pas.
Oui, c'est vrai. J'étais dans une école catholique. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Du secondaire à 20 ans, je me rappelle même avoir eu. Mais sûrement, bien sûr. Mais il ne faut pas demander comment ça n'a pas marqué, puisque. J'ai aucun souvenir qu'on ait même eu un cours.
Quand on était en réto, on avait un prêtre qui venait donner cours de religion. On a tellement... tout ce qu'il disait, on contestait. On contestait. Qu'il a dit, écoutez, c'est contre moi ou quoi? Le pauvre homme, je crois qu'il n'est même pas resté. Tellement on l'a retourné dans tous les sens, le pauvre. On est terrible, hein? Je n'étais pas la dernière.
Et c'était des filles.
S'il vous plaît?
C'était des filles, selon
vous. Oui, hein? C'est ironique. Maintenant, c'est mixte, hein, tout ça.
Oui.
Maintenant, c'est mixte, mais à mon époque, ce n'était pas mixte du tout.
Moi, je me souviens, j'étais en primaire en Afrique, dans une école gérée par des bonnes sœurs catholiques. Il n'y avait pas vraiment de leçons. Il y avait une messe par semaine, obligatoire, mais pas vraiment de leçons. Par contre, on récitait tous les matins « Je vous salue Marie ». Alors, c'était rigolo pour le fils de missionnaire. « Salut Marie et notre Père bon, ». Voilà. Sans plus. Mais je pense que beaucoup de gens ont eu une éducation très soft, finalement, au niveau religieux.
Moi, je peux le dire. Et en tout cas, il n'en reste pas grand-chose quand tu vois des émissions bêtement 71, là. Quand il y a une question sur la Bible, je m'en vais. Même lui. Enfin, excuse-moi. Non, mais c'est parce qu'il est plus tard. Hein.
Mais moi, je suis l'exception de tout le monde. Je n'ai jamais reçu le moindre signe jusqu'à 18 ans. Hein.
Voilà. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas
méchant.
Non, de philosophie, on appelait ça, pas uniquement, c'est pas moral, on étudiait des philosophes. Hein, ou, en école primaire, je faisais.
Des verbes.
À la
place de.
Donc, le professeur.
La première demi-heure, ils avaient catéchisme, et moi j'avais verbes. Donc, qu'est-ce que je faisais? On me donnait un verbe que je faisais à. Tous les mots, tous les temps, et tout ça. Et quand j'avais fini, j'avais une image.
Qu'est-ce que t'as dit?
Il est devenu fort
en une image. Sage comme une image.
Parce que tu avais été sage.
Voilà.
Parce qu'il avait fait son jeu.
Mais en humanité, j'ai eu l'étude des philosophes. Tout ce qu'on peut imaginer.
Donc on connaissait.
En résumé, moi je dis, j'ai un intérêt vierge. Donc, dans un terrain vierge, et je l'ai connu quand j'ai fait mon potager à côté, je n'avais jamais été, on l'a retourné et tout ça, ça poussait très bien. Parce que le sol était riche. Donc moi je dis, je n'ai pas été abîmé par certains. Parce que...
oui, aussi, du bon côté.
Mais c'est vrai, c'est
dans un sens, c'est vrai.
Dans un sens, c'est vrai. Moi je dis ça. Et en plus... On dit toujours l'esprit critique. Ben oui, mais moi, et c'est ma vie, bon, comme ça, entre dire et faire, témoigner, mais t'as des gens qui disaient des trucs, et puis
Quand elle voyait Jésus, mon frère,
elle est revenue.
Ouais, mais elle
c'est ça, c'est ça le témoignage. Hein.
Ouais, moi, l'extrême que j'ai vécu, c'est un prêtre qui exigeait des enfants, et notamment des adolescents qui ne pouvaient pas, disons, s'embrasser, ou avoir tchik, 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 et qui avait une crapaude, et qui a eu un enfant. Je ne suis pas contre hein, ça. Mais entre le cacher et être malhonnête c'est là-dessus, hein, c'est voilà, c'est hypocrisie, tu vois. Maintenant, c'est un homme. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est pas.
Faut mais pas c'est un homme qui a une responsabilité.
Oui, c'est ça.
Okay. On va recentrer le débat. Donc, ça nous montre que dans notre propre groupe, selon les histoires personnelles, on est bien conscient qu'il n'y a quand même pas une science infuse qui tombe comme ça du ciel et que du jour au lendemain, on peut quitter toutes ces propres connaissances et puis embrasser celles de la Bible.
C'est comme dire une petite chose, c'est que quand on étudiait des textes ou quoi ensemble dans la classe, il me manquait quelque chose. Parce que nous sommes une civilisation basée chrétienté, et on faisait parfois appel à des notions que moi, je ne connaissais pas. Mm-hmm. Donc, il y avait un manque. On en parle dans certaines choses.
Okay. Il y a même plein d'expressions.
Oui, énormément d'expressions.
Là, la
oui, ça veut dire quoi? Ça vient d'où?
Bah oui, c'est ça, quoi. Tu me dis, il y en a beaucoup.
En tout cas, tu m'as rappelé quelque chose, parce que enfin, voilà, moi j'ai toujours vécu dans les églises protestantes, on faisait des quiz. Qu'est-ce qu'on s'amusait de par notre ignorance. Tout ce qu'on ne savait pas, quoi, ça nous amusait. Et puis bon, ben, on apprenait. Mmh. Ben, c'était génial. Parce que c'est...
ça existe.
Oui, donc ce n'est pas nécessairement négatif.
Non.
Mais
et donc,
les jeux, comme 71, etc., quand tu vois les questions que l'on pose. Et il y a 70 publics, personne. Quand tu vois les âneries, des choses qu'ils ne connaissent pas, tu dis, c'est nénéné, impossible. Je ne suis pas un
gros. Et pourtant, nous ne sommes pas des sommités.
Parce qu'il y a des gens qui.
Donc, essayons de terminer. Parce que, quand même, l'heure est là. Essayons de terminer en nous demandant. Donc, on voit que le côté ludique peut être intéressant pour approcher les Écritures. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer mettre en place pour fidéliser les gens dans cette culture biblique? Alors, ça commence certainement le plus tôt possible parmi les enfants, oui, sans doute. Mais beaucoup de gens arrivent en n'ayant pas, comme toi, 18 ans, mais voilà, il n'y a pas tout ce bagage-là déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'Église peut imaginer
dire, la question que tu poses là, c'est que... être écoute de quelqu'un qui est nouveau, qui se pose des questions, hein, et parfois dire, et d'essayer de répondre. Comme tu dis, on ne sait pas toujours tous répondre. Et c'est une question de caractère, de feeling aussi, etc. C'est pas évident.
Mais par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai fait une ou deux fois dans ma carrière, notamment une fois à Jemep. J'ai proposé que des gens posent des questions par écrit de préférence pour avoir le temps de comprendre quel était le sujet. Et plus tard, j'ai prêché en répondant à ces différentes questions. Donc on peut imaginer partir justement de ce qui n'est pas compris, maîtrisé, ou des questions de curiosité du public que nous avons, pour aboutir à une prédication qui recentre un peu les choses. Voilà, donc ça, c'est des exemples comme ça qu'il faut essayer de trouver. Bon, je sais aussi qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, il y a d'autres solutions à mettre en place. Une sorte de... On pourrait imaginer en vidéoconférence, apporter un certain nombre de réponses aux questionnements des gens, etc., etc. Une catéchèse pour adultes adaptée, si on peut dire. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait... Si des choses comme ça devaient être mises en place... il faut embarquer les chrétiens avec. Parce que parfois, ils ne sont pas plus au clair avec que les nouveaux convertis. Oui. Donc, il y a toute une refondation, à mon avis. Moi, j'avais bien aimé le concept catholique de la nouvelle évangélisation, parce que manifestement, c'est que comme ça qu'on peut y parvenir, en remettant les bases là où elles doivent être, et puis... en aidant les gens à suivre le Christ davantage que suivre des règles, des ci et des là. Et puis donner l'appétit, c'est un peu ce qu'on fait dans notre groupe finalement, se donner les moyens d'avancer avec le texte biblique. Et malheureusement, ben voilà, je ne sais pas si ce que nous faisons, nous, est reproductible tel quel. Parce que malgré tout, la dynamique d'un groupe, elle tient au groupe. Voilà, on pourrait très bien se plaindre, s'engueuler, pas avoir de vision commune. Ça pourrait être aussi un groupe éclaté. Bon. Là, on a la chance de fonctionner dans une belle fraternité, je trouve, dans notre groupe, issus de différents milieux les uns et les autres, et puis d'avancer avec le texte. Voilà. Donc ça, c'est possible. Mais est-ce totalement reproductible à tous les niveaux, dans toutes les églises ?
Non, mais selon les groupes, il faut adapter selon ce que le groupe que tu as devant toi. Ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. C'est comme dans tout.
Tu vois, par rapport à ce qui est Nouveau Testament, je pense que c'est assez facile à mettre en place. Mais dès qu'on saute dans l'Ancien, là, si tu veux, le phénomène culturel, les bases culturelles que nous n'avons pas, nous qui ne sommes pas juifs, ça pose quand même un sérieux problème. Donc, faut réfléchir à tout ça. Comment on peut faire ?
La preuve, c'est qu'on apprend tellement de choses quand on vient ici, nous-mêmes. Tu as des connaissances. Comment veux-tu partager quelque chose que tu n'as pas ?
Oui, mais on peut déjà au moins se dire que nous sommes tous capables de lire le texte.
Oui.
Et en général, quand je dis quelque chose qui n'est pas dans le texte, je le dis. Si c'est une idée, une hypothèse, etc., je ne dis pas le texte dit. Je dis, voilà, on peut imaginer que. Mais je pense que, comme je vous l'avais dit une fois, surtout avec le texte des Actes des Apôtres, tout ce que nous nous disons ici est dans le texte. C'est juste que nous faisons une lecture plate du texte et rapide, pas comme on nous a appris à le faire, quoi. Mais du coup, où est le relief de tout ça ? Comment comprendre qu'il y a, entre Jérusalem et Antioche, un long voyage, hein ? Que c'est pas « Oups, je prends l'avion et j'arrive à Antioche deux secondes après, et puis je fais mon job, quoi. » Donc oui, on doit essayer de se mettre dans ce bain à la fois géographique, historique, pour comprendre les difficultés, les enjeux du moment. Voilà, dès que tu essaies de faire apparaître ce relief, tu comprends mieux.
Comment faire aussi quand tu es dans une église de 150 personnes ? Et là, ce que je trouve aussi dans ce passage, c'est qu'il y a vraiment un enseignement et une façon de réfléchir aussi à quelque chose de très important. Barnabas aurait pu se faire un gros coup et dire « moi, je vais enseigner toute l'église ». Il a été chercher Saul. Et on voit que c'est toujours cette idée « j'ai besoin d'un frère, j'ai besoin d'une sœur, j'ai besoin de conseiller, j'ai besoin d'être épaulé ». Et ils y vont ensemble, ils travaillent ensemble. C'est le conseil que Moïse avait reçu aussi. Tu ne tiendras pas le coup tout seul, Moïse, je crois. Et finalement, le peuple juif a reproduit ça tout au long de son histoire, et l'Église le reproduit aussi. Et dans l'Église, ça peut arriver que là où il y a un homme qui veut tout faire tout seul,
c'est
dangereux. Et aussi, je dirais en plus, c'est l'amour que les responsables ont. Il vient de dire comment reproduire. Mais imagine que tu n'aurais pas d'amour, que tu viens simplement pour te targuer de ce que tu sais. On va le ressentir. Et cette communion qu'on a ensemble, elle ne marchera pas.
Exactement.
Et donc, il y a aussi cet amour que l'on ressent chez l'autre qui veut, non pas donner une connaissance, mais
partager.
Et parce qu'il aime la personne, on veut ensemble avancer.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me dis quand même, par rapport à la question que tu posais, là, une église de 150 personnes, etc., comment faire ? Ben, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le 1 à 1 ou des petits groupes. Oui, hein. Mais la problématique, c'est qui peut le faire ? Comment est-on équipé pour le faire ? Et c'est là peut-être que le bât blesse le plus dans l'Église, c'est qu'on n'a pas de gens qui ont une formation et une... Et comment dirais-je ? Et un zèle particulier pour transmettre des connaissances bibliques, on n'en a pas énormément. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est dans les grandes églises catholiques, mais dans nos grandes églises protestantes, si on a, dans une communauté de 200 personnes, si tu as 5-6 personnes différentes qui ont droit à la parole le dimanche, c'est beaucoup. Mm-hmm. C'est souvent beaucoup moins que ça, en réalité. Donc si tu imagines dans une grande communauté... On est 5-6 à pouvoir enseigner. Comment enseigner à tout le monde en dehors du dimanche ? Et on peut peut-être se dire qu'on devrait profiter de la modernité dans laquelle on est, par exemple les moyens technologiques. Moi, j'ai envie de proposer l'étude des actes, justement, à notre Église, mais dans une formule qui serait plutôt vidéo. Donc il y aurait travail comme nous tous, hein, se préparer au texte, etc. Et au lieu d'être en visu, ça pourrait l'être en visuel en partie live si vous voulez, mais qu'on se met avec un autre groupe et à des heures qui sont peut-être celles qui conviennent le mieux pour les gens, parce que malheureusement il y a des gens qui sont pas toujours libres le soir non plus. Donc tu dis bon, comment faire en sorte qu'un maximum de gens puissent profiter d'une étude approfondie du texte ? Voilà. Donc je réfléchis à ça.
Moi, je crois que c'est nécessaire et en même temps, on peut avoir de creuser le texte de cette manière-là, mais ça peut être comme creuser une matière profane.
Oui.
Comment faire pour que ça soit vraiment un attachement au Christ.
Oui.
Ceux qui sont déjà, comme nous, un peu, ça va renforcer hein, l'amour du Christ et de le servir, et etc. Mais pour d'autres, ça ne sera qu'une un approfondissement intellectuel.
Ça ne peut pas être juste un apport de connaissances.
Voilà, il faut que ça devienne une expérience... qui agit en nous et qui nous transforme notre vie. Et donc il faut à côté, mais je vais dire pratique. un peu pratique et je veux dire une relation affective, c'est peut-être pas le mot, mais un peu ça quoi.
Mais hein. Quand même.
Moi je vois bien la différence maintenant. J'aime bien ici, mais si je comme j'ai un côté plus cérébral, que c'est ça qui m'a un peu sauvée. Au niveau identité, j'ai dû chercher autrement pour ailleurs, par d'autres choses, quoi, pour dire de me connecter à une relation plus cœur à cœur. Il y en a que c'est l'inverse, hein, qui vont être peut-être trop subjectifs et trop sentimentaux et qui va leur manquer.
On a peut-être besoin de dépasser la vision que le culte du dimanche ou la messe est suffisant pour nourrir le peuple. Et le Covid, malheureusement, a fameusement entaché aussi ça. C'est qu'on a été confinés, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus se voir, on ne pouvait plus aller chez les gens. Et depuis lors, peut-être beaucoup d'églises ont difficile de redémarrer ces réunions en semaine. Le culte du dimanche est très important. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça ? Mais ce n'est pas suffisant.
Et en plus de ça, je pense que l'Église...
On est content d'avoir cette étude ici, parce que là, on va en profondeur. C'est simple, tout étant compliqué. On apprend tous quelque chose. On n'en sort jamais sans rien d'ici. Et si on n'avait pas ça, il nous manquerait quelque chose.
Je trouve qu'il y a un point aussi, je trouve important par rapport aux études ici, c'est non seulement ça apporte au niveau contenu, mais le fait que tu envoies les questions sur lesquelles je bloque très souvent, mais ça me ça me permet de me dire, parce que ce que je fais, c'est que je lis d'abord le texte, et puis je lis les questions, et je fais, mais purée, pourquoi est-ce qu'il se pose toutes ces questions?
Tout doucement,
je me rends compte que quand je lis, je vais dire, attends, mais qu'est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses derrière, c'est que juste la lecture,
ça nous oblige à aller creuser.
Mais par contre, il est parfois difficile, je trouve, d'être sûr de comment trouver l'info. C'est facile, tu trouves des centaines d'informations sur Internet, mais quelle est la valeur des infos de ce que tu cherches? Ça, j'ai encore parfois un peu peur en allant chercher, de trouver des trucs pas toujours. Donc c'est pour ça que c'est aussi essentiel d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît vraiment, de continuer à te guider. Mais je trouve que juste la partie, même les questions, ça permet de commencer à te positionner différemment.
Alors, je vais vous dire un petit secret, mais c'est avec toute la culture que j'ai, c'est vrai, et les années de travail dans l'Église, ça c'est vrai aussi, eh ben, n'empêche que si je ne connaissais pas le grec, je serais parfois très embêté. Et donc finalement, on se rend compte que connaître les langues bibliques, ça te permet quand même de découvrir des choses que nos traductions ne laissent pas transparaître. Je ne dis pas qu'elles mentent, hein. Je dis qu'elles ne sont pas arrivées à le faire apparaître dans le récit en français. Et ça, c'est dommage. Parce qu'alors, on perd de nouveau quelque chose. Hein, cette espèce de relief dont je parle, il est là dans les langues bibliques et il est nettement moins là dans nos traductions, quelles qu'elles soient, françaises, anglaises, néerlandaises, etc. Hein, voilà, ça fait partie du problème de la traduction.
Oui, traduire. Il n'y a pas beaucoup de monde.
Oui, t'as déjà le wallon, dites.
C'est une ancienne langue. Hein.
Oui.
On va lire les actes en wallon.
C'est du latin.
Ils sont pas encore traduits.
Oui, j'ai fait du latin un petit peu aussi.
Il y a que les évangiles qui sont.
Bien, c'est vrai que moi je commence à un peu l'hébreu, mais après un moment on traduit un psaume en hébreu, ça a toute autre saveur.
Faire l'élection divina comme on le fait, il y a ce côté, pas seulement d'approfondissement comme on le fait ici. Hein.
C'est une autre démarche.
Ouais, c'est une autre démarche où c'est plus appliqué à sa vie, comment la parole
et où
nous interpelle.
Tu laisses le texte.
Mais finalement, j'en parle, hein. Je ne te le dis pas, mais j'en parle. Mais tu crois que des chrétiens viennent, tu leur proposes, tu leur expliques même. Ils ne viennent pas alors que ça se fait dans les maisons.
La parole de Dieu dans leur propre langue.
Ouais.
Et dans ce peuple-là, est-ce qu'ils ont nécessairement besoin aussi d'avoir quelqu'un qui connaisse le grec ou le hébreu? Donc, pour les enseignants, moi, je trouve que ce serait chouette. Ça, c'est primordial. Ouais. Mais que chacun puisse lire la Bible dans sa langue,
c'est déjà une
bénédiction.
Heureusement.
C'est vrai que tout le monde ne peut pas apprendre l'hébreu et le grec.
Quand nous sommes allés au Canada, il y a une section qui traduisait la Bible en Inuit, c'est ça? Et c'est pas évident, parce que comme le contexte, bon, il disait simplement blanc comme neige. Mais un gars du Nord, la neige, c'est ce que c'est. Elle a plein de couleurs. Alors, ils avaient traduit le blanc comme le bébé phoque. C'est le blanc. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Ah. Maintenant, tu vas en Afrique et tu parles de la neige.
De la neige
blanc comme neige, il n'y a pas de neige.
Si tu habites près du Kilimandjaro, oui.
Ah, oui.
Mais tu vois, c'est comme tu dis, c'est pas évident à traduire. Je vous signale qu'on a un prof, nous, qui a. Et il ne veut pas le mot traduire, il a interprété les quatre évangiles en
Wallon. Oui, on l'a déjà dit.
Hein? Moi, je n'ai pas encore commencé, on a commencé, et c'est bien parce qu'il y a le français, il y a le Wallon.
Oui, il y a les deux, hein.
Et puis, il le parle. Tu peux l'avoir en audio.
Il y a ma chaîne,
QR code. Mais donc, c'est pour ça que quand on était en faculté de théo, nos profs nous apprenaient que traduire, c'est trahir.
Oui.
Il n'y a pas une solution miracle. Tu ne peux pas rendre un terme hébraïque complètement audible en français.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, mais par contre, tu peux expliquer.
Oui,
tu peux expliquer le terme hébreu pour mieux comprendre ce qui nous manque en français.
C'est ce que le prof disait, on peut donner l'idée. Ou
mais tu ne peux pas avoir une Bible avec tous les deux mots, une grande parenthèse pour expliquer. Non.
C'est compliqué. Il y a une chose, moi, qui m'avait surpris. Un tapis roulant. Comment traduire en wallon un tapis roulant? Il n'y avait pas à l'époque de ça. Mm-hmm. Eh ben, il l'a traduit par « homo inoui », donc un jamais fatigué.
Ah non. Ça, c'est pas
Yves, enfin, c'est quelqu'un qui avait fait ça, « homo inoui », un jamais fatigué. Mais c'est, l'image est formidable, moi, je trouve. C'est vivant, tu vois.
Trouver.
Eh ben, en grec, ça doit te passer la même chose. Mm-hmm. Tu ne sais pas parfois toujours traduire, mais tu pourrais mettre une expression, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas grec.
Mais tu sais que dans les cercles wallons, eh bien, comme il y a beaucoup de nouveaux mots maintenant, eh bien, ils font appel aux gens pour essayer de découvrir un mot wallon qui pourrait correspondre.
Ah oui, oui, oui.
Ok, 21h15, on va. Alors,
désolé.
C'est bon.
Lundi prochain. Bon.
J'avais dit que lundi Pâques, on ferait un petit saut dans l'inconnu, hein, Pâques oblige. Donc on se retrouverait la semaine dans 15, avec le questionnaire prévu pour aujourd'hui.
Voilà, c'est bien, mais comme ça...